Radio Okapi. À la présentation, Pascal Massirica.
Au sommaire ce soir, ouverture ce lundi à Kinshasa de la Foire internationale de la femme africaine. Objectif visé, valoriser le travail de la femme à travers des ateliers de formation dans l'entrepreneuriat. Arrestation aujourd'hui à Kinshasa d'une trentaine d'activistes et de trois mouvements citoyens. Ils ont été appréhendés dans la capitale lorsqu'ils réclamaient la libération des femmes et des filles détenues depuis plusieurs mois par des miliciens à Kamonia, au Kasaï. Une maladie inconnue a déjà coûté la vie à 15 personnes sur 26 cas documentés en l'espace de 2 semaines dans la cité de Mangina au Nord Kivu. Le médecin-chef de la zone de santé de Mabalako qui en parle est notre invité ce soir. Madame, messieurs, bonsoir. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la Foire internationale de la femme africaine. Participe à cette activité de 5 jours des délégués venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. À cette occasion, la ministre du Genre a indiqué que la ville de Kinshasa a été choisie par les pairs de l'Union africaine afin de valoriser le travail de la femme à travers des ateliers de formation dans l'entrepreneuriat. Les propos de Madame Chantal Safou sont recueillis par John Bompengo.
Pendant 6 jours, en plus de l'exposition des produits qui sont le fruit de votre travail, l'organisation a prévu des séances de formation afin de renforcer vos capacités et contribuer à votre épanouissement en tant que femme, femme rurale, femme maraîchère, mère nourricière de la ville de Kinshasa. Ces formations vont nous offrir des possibilités et opportunités d'être accompagnées par des conseils et appuis de différents types. Vous aidant à lutter contre la pauvreté en vous facilitant l'accès au financement et au marché porteur et solvable. Pendant ces quelques jours passés ici, nous pouvons ensemble porter l'espoir que nous gagnerons la bataille de la faim en garantissant aux nôtres la sécurité alimentaire. C'est dans ce sens que la femme est une valeur sûre pour l'émergence. Notre pays peut compter sur vous et sur les nouvelles générations de filles que nous avons accompagnées dans l'autonomisation pour en faire des valeurs sûres pour l'émergence de notre pays.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, une trentaine d'activistes de trois mouvements citoyens ont été arrêtés cet avant-midi ici à Kinshasa et conduits à l'inspection de la police nationale. Ils allaient remettre un mémorandum à la représentante du chef de l'État congolais chargée de la lutte contre les violences sexuelles pour réclamer la libération immédiate des filles et des femmes détenues par des miliciens à Kamonia au Kasaï. Des précisions avec leur chargé des communications, Nera Kanyinda au micro de Marco Mulumba.
La marche avait bien débuté, mais arrivé au niveau du croisement de l'avenue X-24 novembre boulevard du 30 juin, il y a eu au moins 4 jeeps de la police qui a intercalé la marche et arrêté les amis. On les a embarqués brutalement en les torturant, les frappant, et ce sont des actes de torture que nous déplorons. Et en ces moments, si nous parlons, nous avons au moins 30 activistes pro-démocratie qui sont détenus à l'inspection provinciale de Kinshasa et autres mouvements citoyens qui sont venus aussi assister à cette marche.
Pour d'autres précisions, nous attendons la réaction de la police nationale. Et puis, les fédérations du MLC Nord-Équateur ont dépêché leurs délégués à Gemena pour accueillir dans cette ville le président de ce parti politique, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les autorités provinciales du Sud-Ubangi ont pris des dispositions sécuritaires pour encadrer cette manifestation. C'est ce que nous explique Dominique Colombi.
Jean-Pierre Bemba, qui rentre au pays après avoir purgé 10 ans de prison à la Cour pénale internationale, a choisi de transiter par Gemena, sa ville natale, et le bastion du MLC, son parti. Il doit d'abord se recueillir devant la tombe de son père, Jeannot Bemba Saolona, décédé alors qu'il était en détention à La Haye. Tout un devoir pour lui en tant que successeur de son père dans la famille, avant de gagner mercredi Kinshasa pour son combat politique. Dans cette attente, la ville de Gemena est en effervescence depuis ce week-end. Des militants du MLC circulent dans les différentes artères avec des drapeaux du parti accrochés à leur moto. Les drapeaux du MLC sont aussi déployés partout à travers la ville pour accueillir l'enfant du Sud-Ubangi. Les fédérations du MLC ont dépêché leur délégation à Gemena, où sont déjà arrivées celles du Nord-Ubangi et de la Mongala. Celle de Kinshasa est attendue. Les autorités sécuritaires du Sud-Ubangi ont pris des dispositions pour encadrer cet événement. Le comité provincial de sécurité a décidé le déploiement des policiers et des militaires à travers la ville de Gemena, non seulement pour assurer la sécurité des gens à Pébimba, mais aussi pour encadrer les militants du MLC. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
J'ajoute qu'aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, sera à Gemena samedi prochain. La plateforme est dénommée Ensemble pour les changements dans les Grands Katanga dit avoir déjà récolté plus de 60 000 dollars américains afin de payer la caution pour la candidature de Moïse Katumbi-Tchapoué à la présidentielle de décembre prochain. La nouvelle a été annoncée samedi après-midi à Lubumbashi par le président de jeunes de cette plateforme politique au cours d'une manifestation tenue dans la commune de la Kenya. Georges Mawine ajoute que l'objectif est de réunir au finish 100 000 dollars américains exigés par la CENI. Il est au micro de Paulin Munanga.
En ce qui concerne cette opération, depuis qu'on a lancé à Kinshasa, au niveau de la province du Katanga, nous avions déjà récolté 52 225 dollars en avance. Et M. Ndala, quand il a quitté Goma, on a organisé une cérémonie à son honneur dans la commune de la Kenya où nous avions fait 6234 dollars, si je ne me trompe pas. Et donc, comprenez que l'opération continue. Déjà, avec les statistiques que j'ai maintenant, au moment où je suis en train de parler, nous sommes déjà à plus de 60 000 dollars, rien que pour la province du Katanga. Cet argent servira à soutenir la candidature de notre candidat, Moïse Katumbi-Tchapoué. Vous savez que ce sont les mamans des marchés qui s'est cotisé, et vous allez suivre les images parce qu'il y avait la presse. Ce sont les paysans, ce sont les cordonniers qui venaient donner leurs 2 dollars, 1 dollar. Il y a ceux-là qui donnaient 1000 dollars, ceux-là qui donnaient 500 dollars. Et c'est le bas peuple qui s'est organisé pour montrer à la communauté tant nationale qu'internationale que le peuple au niveau de la province du Katanga souhaite que Moïse soit leur candidat.
Et puis, l'adjoint du chef de la MONUSCO est arrivé à Kisangani ce lundi pour une mission de 2 jours afin de se rendre compte du fonctionnement du bureau de la mission. À son agenda, Devin Grisly prévoit aussi des échanges avec les autorités provinciales et les dirigeants de la société civile. Il s'est confié à Aliana Ali Panagama.
Je suis venu ici parce que nous avons un nouveau chef de bureau. Donc, je voudrais voir son installation, mais c'est plutôt une visite de routine. Je voudrais voir les autorités, le fonctionnement de notre bureau ici et de se voir un peu plus de la situation localement ici. Mais il n'y a rien à signaler.
Et vous aurez aussi à contacter les autorités localement et congolaises et la société civile?
Oui, bien sûr, comme d'habitude, on va faire ça. Ça, c'est quelque chose de routine, comme je disais. Donc, c'est normal, je crois, de prendre contact avec les autorités. C'est tout à fait nécessaire de les écouter, de savoir mieux quelles sont leurs préoccupations et qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour aider les autorités dans leur travail.
Justice à présent, le tout nouveau premier président de la Cour d'appel de l'Ituri a rejoint son nouveau poste d'attache à Bounia hier dimanche après-midi en provenance de Kinshasa. Claude Nsimbi s'est dit conscient des nombreux défis à relever en vue du démarrage de cette nouvelle juridiction dans cette province. Il est interrogé par Sadiki Aboubakar.
Évidemment, le défi est grand. Le besoin de justice, il est aussi énorme. Notre tâche, non seulement sera d'installer cette cour, mais aussi de redorer l'image de la justice, de faire en sorte que cette cour d'appel, qui heureusement est en train de s'installer, ne suive pas les travers que les gens, la population décrit.
La première cour d'appel va s'installer dans le contexte électoral. Comment vous allez vous y prendre?
Je crois que ce sera essentiellement le premier dossier.
Il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que toute la composition est complète?
Les infrastructures viendront. Le début a toujours été difficile, vous le savez, donc je ne peux pas pour l'instant dire exactement ce que je ferai. Je vais conférer avec les collègues qui sont sur place, vérifier d'abord qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure à la disposition de la justice. On partira de là.
Est-ce que tous les animateurs ont été aussi nommés?
Ils n'ont pas encore été nommés, mais le problème est bien connu des autorités. Nous avons reçu l'assurance que les décisions de nomination, de désignation vont suivre dans les heures qui viennent. Et donc nous serons prêts lorsqu'il s'agira de traiter le recours contentieux candidature.
Un soldat des FARDC commis à la garde de la résidence du gouverneur du Kasaï central a été retrouvé mort hier dimanche. L'auditeur militaire de garnison de Kananga dit attendre les résultats de l'enquête pour élucider les circonstances de ses décès. En attendant, ce soldat a été enterré hier dimanche après-midi. Le récit de Joël Bofengo.
L'auditeur militaire supérieur garnison de Kananga dit ignorer les circonstances exactes de la mort du militaire. Le lieutenant-colonel Jean-Blaise Boamoulundo, qui s'est rendu sur place dimanche, indique cependant que selon les premières constatations, le soldat est mort par balle. Il privilégie la thèse du suicide, mais il précise que c'est au terme de l'enquête que l'on saura s'il s'agit bien d'un suicide ou d'un meurtre. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué, nous devons savoir pourquoi, souligne le lieutenant-colonel Jean-Blaise Boamoulundo. L'auditeur de garnison et son substitut ont été dépêchés ce lundi matin à la résidence du gouverneur pour poursuivre l'enquête et interroger les autres gardes. Dans un communiqué publié dimanche, le cabinet du gouverneur de province soutient que le soldat s'est suicidé. Le document fait savoir que le militaire n'a probablement pas, je cite, digéré une information médicale relative à son bulletin de santé. Fin de citation. Le communiqué déplore un incident malheureux. La mort du soldat intervient alors que le gouverneur de province Denis Kambayi est à Kinshasa. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Kapi.
Des paysans agriculteurs d'une dizaine de villages de la chiffrie de Mazangoulé en territoire de Louboudi sont empêchés d'aller dans leur champ de maïs depuis 3 mois maintenant par un éléphant en divagation dans la zone. Ils redoutent la perte de leur récolte. Radio Kapi Lubumbashi, Denise Mayo.
Nous avons cultivé du maïs, c'est notre seule source de revenus. Le maïs a déjà atteint la maturité, mais impossible pour nous d'aller le récolter. Un éléphant a élu domicile dans la zone et agresse tout celui qui s'hasarde à y aller. Déclaration du représentant des agriculteurs de la chefferie de Mazangoulé dans le territoire de Louboudi. Ce sont des dizaines d'agriculteurs de 15 villages dont le mouvement est réduit. Au mois de mai dernier, une femme qui se rendait au champ a été tuée par cet éléphant. Ces agriculteurs ont une autre inquiétude. C'est le fait de brousse et ce, malgré l'interdiction de cette pratique par les autorités politico-administratives. Déjà, près de 20% des récoltes de maïs de la chefferie Mazangoulé sont parties en fumée. L'administrateur du territoire de Louboudi rassure que le refoulement de cet éléphant ainsi que d'autres pachydermes se prépare au niveau de l'ICCN, ce que confirme le directeur provincial de l'ICCN sans donner des précisions sur la date du début de cette opération. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Kapi.
Santé à présent. Au Nord Kivu, une maladie inconnue caractérisée par la diarrhée, la fièvre et les vomissements sévit depuis 2 mois maintenant dans la commune de Mangina, à 30 km au sud-ouest de la ville de Beni. Le bilan qui a été dressé à cette occasion par le médecin-chef de la zone des santé de Mabalako fait état de 15 morts sur 26 cas documentés. Pour se mettre à l'abri du danger, le docteur Germain Kamaliro appelle la population à observer les mesures d'hygiène. Il le dit à Martial Papi Moukeba.
Depuis le mois de mai, il y a un phénomène qui a tenté de frapper la population, qui se caractérise par l'émission de sel liquide et vomissement. Puis, ça suit la mort par soit épistaxie, soit la fièvre. Ça fait au moins 2 semaines que nous avons vraiment constaté qu'il y a une flambée de cas. Jusque-là, nous comptons autour de 15 morts sur les 26 cas identifiés. Pour le moment, c'est d'abord localisé dans la commune rurale de Mangina. Tous les malades sont traités au niveau des centres de santé de référence de Mangina. Et on a aussi noté quelques cas sporadiques dans d'autres structures comme l'aire de santé Linzo qui a référé à Mangodom. Ce n'est pas vraiment la fièvre hémorragique. Parce que la fièvre hémorragique, il y a les saignements dans tous les orifices. Comme les échantillons sont déjà en train d'être envoyés au niveau des laboratoires, au niveau de Goma et Kinshasa, demain. C'est vrai que les résidents peuvent nous confirmer qu'il y a un problème. Sinon, à la population de garder d'abord le calme et d'observer les mesures d'hygiène. Le lavage de mains systématique. Il faut aussi que la population se réserve de se salir main à main.
Actualité Afrique Monde. Commençons par le Mali où aucun chiffre n'est encore disponible aujourd'hui après le premier tour de l'élection présidentielle tenue hier dimanche dans le pays. Il n'y a pas non plus d'indication claire sur le taux de participation ou sur les résultats. Après la fermeture du bureau de vote, le Mali entre ainsi dans une phase délicate consacrée à la centralisation des résultats. Au Zimbabwe pendant 7 ans, après 37 ans au pouvoir, Robert Mugabe n'est plus sur les bulletins de vote, ce qui n'a pas empêché l'ex-président de voter dans une école primaire du quartier Highfield à Harare, la capitale du pays. Son épouse, Grace Mugabe, qui l'accompagnait à l'occasion, a également accompli son devoir civique. Ils n'ont pas dit pour qui ils vont voter, mais Robert Mugabe a créé la surprise hier lorsqu'il a annoncé qu'il ne voterait pas du tout pour le candidat de son parti politique, la ZANU-PF, qu'il accuse de l'avoir évincé récemment du pouvoir par un coup d'État. Après une rencontre qualifiée de chaleureuse lors du dernier sommet du G7 au Canada, en juin dernier, le président américain Donald Trump et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte vont se retrouver ce lundi soir à Washington pour une rencontre bilatérale. Les deux dirigeants ont des affinités sur la question de l'immigration et celle du commerce. Le dirigeant populiste italien a également des affinités sur des questions de politique internationale, un thème qui sera abordé lors d'un entretien suivi des discussions bilatérales.